Chapitre 6. Les événements de ce chapitre se sont déroulés avant ceux des deux chapitres précédents. Cette précision s'adresse au lecteur qui parcourt en diagonale. Les autres auront compris d'un coup d'un seul. À titre personnel, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux lire un livre sans en oublier un mot, histoire de comprendre l'entièreté de l'œuvre, d'en extraire la substantifique moelle. Pour les survoleurs, qui ne s'attachent à pas grand-chose, ne lisent que rarement les caractères en italique, je n'ai aucune réprimande. Mais il me faut le dernier mot. Il consiste à dire qu'écrire, c'est donner son avis, même si ça fait chier certains. J'ajoute en option le côté jubilatoire propre à toute provocation. Préoccupé par ma petite personne, j'avais complètement oublié le rendez-vous. Le hasard seul guida mes pas. La Grand Place, son café-brasserie où j'avais pris mes habitudes, furent le décor. Il titilla ma mémoire défaillante. Le bonjour et à la bonne heure. Je n'y vis pas pour autant la marque du destin. Elle m'attendait, assise à l'intérieur, un verre à portée de main. J'en avais profité pour l'observer quelques secondes au travers de la vitrine et l'avais trouvée belle. Instantanément, alors qu'à l'église, seul son regard m'interpellait. Je dois à la vérité de dire que mon sens de l'esthétique, surtout concernant les humains, ne s'est jamais encombré de critères précis. Là, plus qu'ailleurs, le besoin de référence ou pire de mode ne me semble pas nécessaire. Mon instinct seul détermine la beauté, celle qui m'agrée, me convient, me charme, m'interpelle. Et mon instinct n'a peur de rien, ne raisonne pas au rythme de ce qui doit se faire. Il décide pour moi en toute autonomie. C'est assez difficile à comprendre pour qui s'en tient au canon et dont le cœur fait boum sous certaines conditions. Je n'ai jamais exhibé avec fierté mes conquêtes dès lors qu'elles correspondaient à l'échelle haute des esthétiques en vigueur. Le mot conquête, quoique compréhensible, sent un peu fort le rude du mal dominant, je m'en excuse. D'autant que le sentiment d'appartenance qui corrode l'âme, le jugement de la plupart des hommes m'a été épargné. Il m'est viscéralement impossible de considérer qu'un être pensant puisse m'appartenir. D'ailleurs, l'utilisation abusive du simple pronom possessif m'exaspère. Ma femme, mes enfants, mon oncle, mes salariés. Autant se dévouer, se mettre au service d'eux, anoblisse le propos, autant « elle est belle, ma femme » m'incite à déglutir, s'agirait pas de dégobiller pour autant. Elle sirotait un breuvage transparent nourri de bulles. À petite gorgée, les lèvres presque pincées. Quand elle me vit, elle sourit en me toisant. La bête et le maquignon. À mon tour, stoppant net devant sa table, je la détaillai. Avec un peu trop d'insistance, puisqu'elle me demanda. Et ? Mais son regard disait autre chose. Satisfait ? La cam te convient ? Ça le fait ? Un front large chassait une longue chevelure au burn qui couvrait ses épaules, avec cette sorte de grâce altière qui choisit certains d'entre nous. Ses yeux miel, comme perdus dans de profondes orbites qui fixaient bien au-delà de votre serviteur des mondes d'éternité impossibles à deviner, m'incitèrent à la fuite. L'impression qu'il faisait me terrassait. Comment ne pas craindre la foudre devant plus grand que soi? M'étais-je dit, subjugué par ces feux magnifiques. Comment garder l'esprit clair et le bien à propos? À travers ses lèvres plutôt charnues, légèrement entr'ouvertes qui laissaient deviner un sourire que je supposais moqueur, je crus voir un petit tremblement. Ce témoignage d'un stress, sans doute égal au mien, me rassura. Je m'en étais réjoui. Quelques plissements de paupières plus tard, le temps de respirer profondément, d'oublier un peu cette ode à la séduction, ce superbe visage harmonieux qui donnait un champ à l'espace alentour, je pus décider, quoique surpris comme un enfant sans armes devant un rhéitre mal intentionné, de prendre en main cet événement prometteur. Je savais pourtant qu'au gré de nos humeurs, les perceptions fluctuent parfois du tout au tout, et plus que tout, l'image du beau change comme un ciel breton. À chaque coin de rue, les histoires d'amour qui finissent mal, en général, sont légion dès que les reproches se hurlent bien plus qu'ils ne se disent. Un visage angélique devient scélérat, une courbe harmonieuse disgracieuse, et finalement un peu trop épaisse, une peau satinée apparaît d'orange, et tous ces tics de langage auparavant charmants vous énervent. Tout s'achève de quelques oublis, les gloires du passé que l'on pensait éternelles s'évanouissent de soupir en soupir. Je m'étais rapidement rendu à l'évidence. Pour l'heure, je ne pouvais m'abstraire de la bulle, de l'univers dans lequel la belle m'invitait. toute tentative pour garder un semblant de jugeote, une once de dérision serait illusoire. Prise au piège, enchaînée volontaire. Éperdu le cul, aurait dit Philippe, peu enclin à d'autres charmes que celui des gentianes ou des ciselures de granit. Je m'étais d'abord demandé si je lui faisais le même effet, orgueilleux le bougre, que derrière ses yeux un bordel d'enfer donnait une sonorité différente au battement de son cœur. Puis je m'étais assis face à elle sans dire un mot. Moi qui d'ordinaire n'aimais pas le vide embarrassé des débuts d'une rencontre, j'avais savouré ce silence en souhaitant presque qu'il ne s'arrêtât jamais. Après, nous avions discuté le reste de la journée sans nous préoccuper de nos obligations. Oublier les contingences du quotidien, bonjour la liberté, rien ne paraissait plus important que l'instant présent. Nous avions parlé de presque tout avec cette impression que la plupart d'entre nous ont déjà connue quand ils croisent un vieil ami perdu de vue, qu'ils reprennent la conversation de la veille. Nous avions dû nous penser si fort que les banalités d'usage ne s'imposèrent pas. Nous utilisions des mots identiques pour exprimer nos idées, nous comprenions nos regards. Nos phrases rebondissaient d'une bouche à l'autre pour se compléter et poursuivre ainsi vers d'autres sujets, puis d'autres jusqu'à oublier le temps. Je lui avais dit que je cherchais l'homme de ma vie, que je le cherchais ardemment, sans relâche, sans me donner le moindre délai, que je cherchais cet être un peu secret, tout à la fois fragile et incontournable, qui me semblait si familier et que pourtant je ne connaissais pas si bien que ça. En tout cas, je l'aborais comme je l'adorais. C'était selon, mais il me fallait le trouver mieux encore jusqu'à l'accepter, l'apprivoiser avant que de l'imposer à un ou à une autre. Ma recherche lui plut. Elle m'avait pris la main un court instant, comme pour me dire qu'il serait difficile alors de se quitter pour toujours. C'est ainsi que je commençais la vie en harmonie avec mon moi profond, conjointement avec Coralie. Elle devint la partie de moi-même pour laquelle j'étais prêt à tous les sacrifices. Ce que j'avais prévu au-delà de mes études une fois achevées n'était plus à l'ordre du jour. Coralie me parlait comme à un être doué d'une intelligence qui lui soit propre, m'offrait du soleil plein les yeux. Elle n'était pas la femme de mes rêves, ce qui pour moi ne voulait pas dire grand-chose, mais un rêve de femme. Une idée au plus profond d'un ressenti qui vous dépasse, qui vous emplit tout entier, que vous laissez faire quand elle se présente. C'était si bon de se sentir exister à travers l'autre. Si bon d'abandonner le combat vers lequel tout tendait, si bon de faire la peau aux rivalités mortifères, si bon de se fondre, de se confier, d'oublier les épines, d'apaiser les douleurs, si bon d'être seul, unique, de confier le monde qui ne manquerait pas d'avoir un avis sur la question, sur notre amour, qui ne durerait pas, tant il leur semblerait impossible, à ce point. Nous avions croisé par hasard sa mère accompagnée d'une de ses sœurs. En quelques phrases, je sus. Coralie avait les mêmes parents que Jean-Luc, le justicier. La pieuse maman ayant pris quelque peu l'embonpoint, je ne l'avais pas reconnue au premier coup d'œil. Il m'avait fallu me pencher davantage sur le sujet et, effectivement, ses petits yeux porcins noyés dans la graisse m'évoquèrent d'amicaux souvenirs. « Votre visage ne m'est pas étranger, lui avais-je dit. « Pour sûr, avait-elle répondu. « Moi, je t'ai reconnu. T'étais l'ami d'enfance de mon pauvre Jean-Luc. » Des larmes roulèrent le long de ses joues. J'eus de la pitié pour cette femme meurtrie. Ainsi va la vie. Coralie proposa une rencontre familiale plus approfondie. Elle m'avait semblé tendue et je l'avais rassurée d'un signe de tête que je voulais positif avec ce petit sourire un peu triste qui nous vient quand le devoir nous appelle, qu'il est difficile d'y sursoir. Absolument, m'étais-je entendu dire. Quelques années de plus n'avaient rien arrangé. Coralie, seule rescapée, gardait la tête hors de l'eau comme un récif dans une mer déchaînée de conneries et d'idées prêtes à l'emploi. Le tableau, plutôt comique de cette famille désunie, peinait visiblement Coralie. Elle ne cachait pas son agacement en tapotant nerveusement sur le coin de la table qui, si elle n'était pas en formica, aurait pu l'être. Les silences devenaient pesants. Les quelques phrases échangées, attendues sans intérêt, les minutes se noyaient dans l'ennui. Avant qu'un malaise ne s'installe, nous dûmes prendre congé. À une prochaine fois, avec plaisir, impossible d'en être de rechef, pourtant la courtoisie nous incite au mensonge. Thérèse, la mère, m'avait parlé de Dieu, de la procréation, de l'amour, des novellas et de la cuisson du tourne-dos. Sur ce dernier point, Coralie n'ayant pas décidé l'option mère au foyer ou petit soin pour son mari, je devais me mettre au courant. De là à aller moi-même chercher ma bière pendant un match, attention. Il n'y avait qu'un pas. Je remerciais belle maman pour cette touchante attention et m'apprêtais à en remettre une couche, mais Coralie, faisant les gros yeux, m'en dissuada. Lucien, le papa, m'assomma de doctes propos sur le rôle d'un chef de famille. Tandis qu'il m'abreuvait de lieux communs en me parlant comme un adolescent prépubère découvrant les joies de la quéquette, les sœurs, restées au foyer, s'empiffraient de biscuits casse-croûte beurrés abondamment de pâte à tartiner qui, trempés dans un grand bol de chocolat, se délitaient pour atterrir au fond du récipient. Après, c'était le jeu habituel de toute évidence, il suffisait de récupérer la bouillie de glucose, de s'en régaler. À peine avions-nous franchi la porte, laissé cette smala heureuse, haute en couleurs, riche en gras, aux occupations d'importance, mais cependant si différentes des nôtres, que Coralie m'avait proposé une migration vers d'autres horizons dans les meilleurs délais. En gros, nous devions déménager illico, maître de la distance. Ailleurs ne serait pas mieux, mais elle préférait se tenir à l'écart de cette ennuyeuse famille, car, décidément, elle n'utilisait pas les mêmes épices. Certes, elle ne l'aimait pas, mais ne la détestait pas pour autant. Elle avait pour elle la même forme d'alacrité, de compassion qu'elle avait pour ses patients, ni plus ni moins. Comment pouvais-je lui en vouloir? Le temps perdu à donner le change en vertu des grands principes auxquels nul ne doit déroger finit par gêner le cours d'une vie que l'on souhaite autre. Pas forcément mieux, différent. Pas plus que moi, je ne fréquentais mes géniteurs que par intermittence avec des visites de plus en plus espacées au fil du temps. Elle ne se sentait responsable de la tournure qu'avaient pris ses relations familiales. Sans doute une accumulation sordide propre au laisser-aller ou une succession de non-dits ou des chemins qui s'écartent sans l'espoir de se recroiser un jour ou le sens de la vie bien plus intrépide que les routines obligées, elles-mêmes dictées par des croyances venues du fond des âges ou toute autre raison qui ne m'ont pas apparu évidente sur le coup. Sans doute, seuls les plaisirs enfantins, les gestes de tendresse malhabiles, quoique lointains, restaient pour de bon. Sans doute pour garder le fil. Un fil ténu qui nous reliait à nos racines, comme si le tranché nous amputait de quelques secrets d'avant, que les préserver nous sauvait de la noyade parmi les hommes au regard si prévisible, si indifférent, qui ne se soucient que de leur propre cercle, sans même y faire figurer les leurs. La famille n'est qu'un putain de prétexte, un réflexe clanique, une organisation pratique où les sentiments viennent s'ajouter. Mais cela ne fonctionne pas toujours. J'en avais profité pour prendre des nouvelles de Jean-Luc. Après tout, puisque nous avions une expérience commune, ce sera un bon point de départ pour de nouvelles aventures. Se raconter autrement, partager peut-être, faire connaissance dans de nouvelles peaux. Lucien ne voulait plus entendre parler de son fils. Pour lui, le comble du déshonneur, la honte absolue, une salissure pour toute sa famille qui étouffait sous les médisances. Il ne pouvait envisager le moindre rachat, aucune rédemption possible, rien que des tâches indélébiles. Il se drapait dans une dignité toute neuve, se coiffant d'une couronne de laurier, faisant montre d'un orgueil démesuré qui m'étonna. Son port altier surtout. Comment pouvait-il se braquer ainsi, avec tant de fermeté? Lui, l'esclave d'une vie soumise, corvéable pour quelques piastres, béni oui-oui d'un chef aussi abscon que con et qui ne devait ses excédents de confort qu'à de mesquines rapines de pique-assiette. Je m'étais dit que Lucien, plus que tout autre, aurait pu comprendre le désespoir des humbles, les chemins sans issue, les gestes itératifs qui ne mènent nulle part, quoi que vous fassiez. Comprendre et pardonner, comme il est d'usage avec la chair de sa chair, dit-on. Préférant plutôt la politique de l'huître, il s'était enfermé dans sa douleur d'être le moins que rien. Il avait généré un monstre. Enfermé à double tour, avalant les clés des solutions, il exudait sa peine par tous ses pores, pleurant autant sur lui-même que sur son fils. Malgré ses efforts pour n'en rien laisser paraître, je voyais le livre de sa vie impudiquement ouvert. À vouloir se taire, son silence hurlant distillait sa misère, la fracassait avec une violence qui le dépassait. Thérèse, quant à elle, n'avait pas baissé les bras devant le malheur qui les accablait. Au lieu d'en faire des tonnes, elle portait sa croix, tête haute. Un mouchoir à la main, reniflant plus que de raison, elle me conta sans détour l'histoire du bad boy. Elle s'autorisa des pauses pour tester les loukoums de sa voisine algérienne qui, si on oubliait sa religion, était une brave femme. Il avait passé ses premiers mois de privation prostré, hagard, quasi muet à toute roquette. Quand il répondait aux questions, c'était de manière anarchique. Il dut subir une batterie de tests sans broncher, indifférent à son sort comme à celui du monde. En quelques mois, il perdit tous ses kilos superflus. Cet amas de graisse qu'il avait tant bridé, tant engagé, vers des chemins contradictoires où l'aspect détermine la pensée, l'a priori tue l'idée, fut-elle brillante. Un jour de mai, à l'heure du goûter qu'il ne prenait plus, il s'attarda sur son reflet pour, finalement, se trouver pas si mal. Ce fut le début d'une nouvelle tranche. Il prit la décision de sculpter son corps à la manière d'un chippendel. L'image de femme remplissant son mini slip de billets de banque fut dès lors le vecteur indispensable à sa stimulation quotidienne. D'autant plus que cette image s'accompagnait d'une érection satisfaisante. Il s'en émerveillait. Sans son gros ventre, sa bite avait belle allure, prenait l'espace en tête, se gorgeait de perspectives plus salaces les unes que les autres, sortait d'un long sommeil timide et traumatisant. Il en fallait du courage pour s'astreindre à une discipline quotidienne. Quoi qu'en disent ceux qui se gaussent des anabolisés de la salle en se frottant leur bidon gorgé de bière, il faut faire montre d'une ardeur sans faille pour que la gonflette devienne ferme et presque définitive. Jean-Luc profita des équipements du centre avec l'assiduité de ceux qui ont décidé d'avoir plus de volonté que d'excuses. Une manière comme une autre de grandir, d'aller vers un au-delà que l'on croyait jusqu'alors réservé à d'autres. Petit à petit, les grandes glaces collées au mur devinrent ses amies. Elles lui restituaient ce qui lui avait cruellement manqué tout au long de son enfance, une image acceptable. Petit à petit, il se regarda en y prenant du plaisir. Il observa ceux qui pratiquaient les mêmes exercices sans animosité, avec bienveillance, allant jusqu'à échanger les mots d'usage. Petit à petit, il se libéra de son agressivité, de son sentiment haineux envers ses semblables qui le taraudaient. Petit à petit naquit l'autre, celui que plus personne n'attendait, alors qu'il ne suffisait que de quelques mouvements coordonnés, de quelques respirations profondes. Le directeur du centre n'avait jamais cru en sa rédemption, à son retour parmi le banal. Il l'utilisa comme on le fait d'une bonne référence, d'un cépage ou d'une recette gourmande. Jean-Luc servit d'étendard à cet obscur fonctionnaire qui voulait prouver son utilité à la face de son administration. Jean-Luc, preuve absolue d'une réintégration réussie. Du stade de traîne savate inutile et pesant pour la société, il fut propulsé dans le clan des décidés, promis à tout et pour tous car capables d'exprimer leur potentiel. Tout allait bien jusqu'au jour où. Un éducateur disproportionné, véritable injure au rachitisme, voulut de force lui tripoter l'engin. Malgré des refus polis, la bête musculeuse insista. Le cutter fit alors office de juge de paix et le tripoteur perdit et sa vie et ses attributs, tandis que Jean-Luc, à présent majeur, prit 10 ans ferme et perdit ses espoirs de liberté. Nous avions pris l'habitude de le visiter chaque semaine. Sans doute la nécessité de se sentir meilleur, utile ou quelque chose d'un peu grand, de noble et de désintéressé. Malgré la brièveté du parloir, les entrevues sous surveillance, le moment était agréable. L'austérité, comme cette sorte de neutralité sans saveur, sans âme, n'entamait en rien la bonne humeur de Jean-Luc. Le garçon peureux, recroquevillé sur ses complexes que j'avais connus, s'était volatilisé. Avec son nouveau statut de tueur confirmé, le respect qu'il imposait avec ses gros muscles, la crainte que suscitait son regard dur exempt de la moindre pitié, il avait trouvé une mesure satisfaisante. Vêtu de ses nouveaux habits, plus personne ne l'importunait. Le protégé frileux s'était transformé en protecteur, parfois même en médiateur. Un nouveau mental pour vivre enfin sans les contraintes indésirables des servants. Jean-Luc s'était attaqué aux études, par la face nord. Sans complexe, abordant les difficultés avec le sourire, puisque le temps qui lui était imparti pour comprendre n'était pas mesuré. Apprendre, découvrir, empiler dans un coin de sa tête le savoir, blottir au creux de son âme des sensations, étaient ses seules véritables motivations. L'idée que son travail puisse déboucher sur une reconnaissance, un diplôme qui lui permettrait de s'insérer à sa sortie, lui avait été étrangère. Il ne voyait au savoir qu'un enrichissement sans fin, un chemin à poursuivre, un autre souffle. Avec une jubilation un peu exagérée, il nous parlait de ses découvertes de la semaine. Un roman, un ouvrage technique, de profondes réflexions insufflées par ses rencontres avec de brillantes pensées, tout, absolument tout devait nous être restitué. Son enthousiasme enfantin me charmait tandis qu'il rassurait Coralie quant au futur de son frère. Mais les visites de la gentille sœur s'espacèrent sans que je puisse en donner la raison au frère qui finit par me reprocher mon assiduité. Je craignais que son désespoir provoque en lui une réaction dite du cutter. Par ma présence régulière, trouvant chaque semaine de bonnes excuses à Coralie, j'espérais calmer ses angoisses. Les explications pourries eurent au fait d'éveiller ses soupçons comme sa confiance. Je dus me résoudre à lui dire la vérité. Je ne permettrai à personne d'affirmer qu'elle est toujours bonne à dire. La preuve, dans quelques pages. Elle aimait son métier passionnément. À mon sens, plus que tout, et parfois, plus que de raison. La cinquième roue s'en offusquait, se drapant dans une dignité de carnaval, donnant un sens grand-guignolesque à ses arguments. Cesse la commedia dell'arte. Tu ne dois pas douter de moi. À la longue, c'est insultant. Tes égratignures d'amour-propre ne sont rien en comparaison de ce que je côtoie. Cesse de t'apitoyer sur ton sort. Je me sentais soudain petit. Finissais par la fermer quand elle me racontait ses journées. J'écoutais. Ainsi, je finis par mieux comprendre des notions qui m'avaient échappé jusqu'alors. Le dévouement, le don de soi pour une cause. Je ne sais cependant toujours pas le pourquoi, même si j'ai eu le loisir d'observer le comment. Comme j'aimais Coralie plus que tout, je n'avais le désir ni de la contredire, ni de contester sa vocation, rester neutre pour notre plus grand bonheur. Les nuages sacrins d'un geste amoureux, j'avais fini par les chasser. À l'hôpital, comme c'est l'usage dans toute organisation, ses collègues n'avaient pour elle pas la moindre vacherie, pas de blagues douteuses, pas de petites piques acides ou toutes ces sortes d'égratignures qui expriment des reproches d'apparence anodine de manière maladroite pour devenir, en s'accumulant, source de conflits. Tous vantaient sa compétence exemplaire, sa gentillesse, sa serviabilité, sa disponibilité et l'absence de calcul dès lors qu'il s'agissait d'un patient en difficulté. Les journées longues et fatigantes n'affectaient en rien sa bonne humeur, si bien que, quand elle montra des signes patents de fatigue, chacun crut qu'il n'était que subséquent aux longues heures qu'elle s'infligeait souvent. Elle avait beau être zélée comme un ange, les nuits sans sommeil, la peur de mal faire et la pression inhérente à son métier avaient fini par avoir raison d'elle. Coralie serra les dents, absorba ce passage à vide avec bonhomie, en se disant qu'il n'était qu'une petite écharde sans grande importance. Fatiguée parfois, éreintée de plus en plus, elle tenait tête à ce qui lui semblait être des épreuves bénignes avec un courage désarmant. La fatigue s'accumula, l'épuisant davantage chaque jour. Au fil de longues journées, la maladie posséda son énergie. Elle devait tant se battre pour chacun de ses gestes que même un sourire, propre à désarmer le stress d'un malade, lui demandait de gros efforts car elle devait cacher sa souffrance, garder son regard bienveillant, rassuré d'un geste précis. Le jour vint où tout s'écroula. Son corps l'abandonna. Elle perdit connaissance, ivre de fatigue. Je dus la convaincre pour qu'elle se soigne sérieusement au plus vite, quitte à ce qu'elle subisse une batterie de tests. Il nous fallait savoir. Petit à petit, l'ignorance rongeait nos âmes. En peu d'analyse, nous sûmes. Le coup du lapin. La suite sans espoir, contre toute attente. Un verdict impitoyable, partagé par l'ensemble du corps médical, éclaboussa nos illusions de son fiel. L'amertume, une lente érosion, commença son œuvre. Désespéré. Nous connaissions l'issue. À quoi bon? Une curieuse bataille débuta avec Coralie. Je voulais qu'elle vive encore, tandis qu'elle souhaitait une fin rapide pour me préserver. La combative entêtée devint indifférente. Je passais notre temps à tenter de la booster, qu'elle ne m'abandonne pas si tôt, qu'elle nous laisse un miracle. Mais l'improbable ne vint pas. La leucémie est une maladie qui peut être la dernière. Coralie fit face à de grandes souffrances en sachant, nichée au creux de ses convictions, que tous les traitements qui lui étaient prescrits ne serviraient à rien. Elle accepta pourtant des tonnes de solutions pour m'être agréable, me donner le temps de me ranger à une vérité qui déchirait ma raison, piétinait le sens de ma vie, étouffait mes hurlements au creux de mes tripes. Elle mourut d'un sourire qui m'était adressé. En regardant ailleurs quelques semaines plus tard, j'étais devenu autre. La terre entière me devait l'existence de Coralie. Je décidai de la faire payer, de ne pas oublier le tort causé, de ne rien lui pardonner, de lui offrir que le pire de moi-même.
Du trou où je m'efforce d'exister, la vie n'a pas le même sens. Les dimensions sont autres. La sueur des âmes proches n'est pas choisie et parfois insupporte. Les contacts sont rares. Si certains les refusent, moi je me les accapare comme un bol d'oxygène. Ici, ce n'est pas facile de voyager. L'espace est clos, l'air est vicié, les angoisses se terrent et se nouent aux tripes quand elles n'explosent pas à la face d'un mur où les têtes se cognent sans trouver la moindre des solutions. Les visiteurs me parlent, m'écoutent pour de bon, permettent à mes rêves de ne pas oublier qu'un mieux existe. De retour en cellule, une fois revigoré, je pousse plus facilement les jours, j'en entends même qui chantent. Les visites de maman, sa conversation insipide, ses conseils inutiles, ses gâteaux saturés de sucre, me portent vers l'enfance, du temps de la confiance. Elle seule savait me consoler. Alors je prends ce que tu me donnes, si maladroitement, maman, je prends. Parfois la présence de Lucien me manque, mais je ne l'espère pas. Nous n'aurions rien à nous dire. Il est têtu comme un âne, le père, orgueilleux à bouffer de l'avoine, paralysé par les yeux du voisinage qui lui dicte sa conduite. Les visites de Coralie et de son amoureux me comblent, me réjouissent, me flattent, car elles sont nombreuses, toujours joyeuses, badines comme une rencontre au bord d'un zinc, parfois profonde, toujours rassurante, rassérénante. Je suis tellement reconnaissant. Non seulement mon ami ne m'a pas renié, mais il donne à ma sœur préférée l'essentiel. Ils se font dans cette belle histoire avec la gravité de l'infini, comme si tout était définitif. Son alacrité me sidère, il me voit en ami, d'égal à égal quand je lui suis tant redevable. Jamais il ne me parle de ce passé tumultueux, de cette quasi-trahison lorsque je l'ai oublié pour partager ma passion de timbrer avec ma première victime, mon premier bourreau. Nous avons tous trois de longues discussions. Ils me font passer des romans qui renouvellent mes lectures sans couleur, insipides de la bibliothèque qui n'a, en dehors des classiques, qu'un choix de bon usage assez limité. Lui prend un malin plaisir à me glisser quelques ouvrages un peu plus subversifs. Ça passe. Ils sont tous deux sympathiques et ma sœur a dans son service l'enfant du chef. Coralie n'est pas venue. Elle est malade. Ce n'est pas grave, un simple rhume. Son attitude est bizarre, je sens qu'il me cache un bout de la vérité. Sans me fuir, son regard n'est pas le même. Déjà 2 mois qu'elle ne l'accompagne plus. Je m'inquiète. Il se fout de moi, je veux la vérité. Et elle n'est pas bonne à dire la vérité. Il s'effondre. Le visage baigné de larmes, il m'explique dans les détails sans fioriture, avec précision. Ma sœur est morte. Lui semble absent, plus rien ne le retient sauf la promesse qu'il lui a faite juste avant. Moi, je me sens responsable. Sans mes conneries, je serais dehors à le soutenir, l'aider à avaler cette couleuvre dégueulasse, cette injustice avérée qui touche tôt ou tard la plupart d'entre nous. Il vient me voir encore. Nous souffrons en silence et son poids devient à ce point écrasant qu'il est temps d'en finir. Je doute que mon ami reste mon ami. Son air tranquille n'est qu'un leurre. Je sais qu'il boue, que sa rage va bouffer son chagrin. Je connais bien ce sentiment, quand plus rien n'a d'importance, que le faire devient une solution. Je plains d'avance celui qui osera entraver son chemin.